I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Arnaud.
Salut Pascal.
Salut Pierre.
Coucou.
Et bienvenue chers auditeurs et auditrices dans le nouvel épisode du podcast. Donc c'est trois hommes qui s'interrogent et on invite un autre homme pour parler entre hommes. Mmh. C'est ça, c'est
bah,
ça. Comme ça. Au cœur des hommes, le titre est super original, Au cœur des hommes.
Ouais, au moins il n'y a pas de doute, il n'y a pas de surprise.
Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de vraiment, c'est vraiment un super titre. J'espère qu'on sera copié un jour pour démontrer bien, ouais. À quel point notre titre était original.
Si j'ai pas compris.
C'est petit, hein, ça, monsieur.
il y a pas de mal. Tout le monde a le droit d'exister. Donc voilà, on est tous les 4, tous les 15 jours pour discuter de ça. Donc à chaque épisode, il y a un sujet différent, un invité différent. Cet épisode, cette semaine, c'est un peu exceptionnel. On a invité une femme.
Bonjour.
Parce que bah, c'est histoire de montrer au monde qu'on est tolérant. Je veux dire, à un moment donné, on n'était que entre hommes.
Alors moi, je me permets qu'il nous dit que c'est une femme.
Ah,
non, parce que aujourd'hui,
on est parti.
En tout cas, je me définis comme femme.
Voilà. Très bien. Voilà. Bon. Très bien. Alors, on fera comme ça. On va te suivre dans ta définition et on va pas commencer à faire des blagues suspectes.
Pascal,
c'est pas une blague suspecte. C'est que j'attendais confirmation. C'est tout.
Je déconne. J'aimerais bien savoir d'ailleurs quel est le sujet aujourd'hui.
Le sujet aujourd'hui, on va parler de parler de tout dans son couple. Pardon, je le
Merci
fais sans
beaucoup.
Note, hein, je n'ai pas écrit. Et j'ai écouté il y a deux minutes quand tu m'as rappelé quel était le sujet.
Le mec se grille.
Voilà. Non, mais les gens savent que nous sommes une équipe de très gros bosseurs. Et on se repose les uns sur les autres. Et voilà. Non, mais on a eu la volonté de t'inviter parce que tu es venu il y a pas très longtemps participer aux enregistrements de Réponses de mecs, Réponses de meufs.
Ouais.
Et on a eu ton livre entre les mains, La sexualité masculine dans tous ses ébats. Ouais. Moi, je l'avais pas lu à l'époque. Toi, tu l'avais déjà lu. Moi, entre temps, je l'ai lu. Je l'ai trouvé vraiment très chouette. J'ai reçu La sexualité féminine dans tous ses ébats, donc je vais le lire avec intérêt. J'espère que c'est un guide pratique pour m'améliorer.
Pour les losers comme toi.
Il y a les adresses à la fin ou comment ça se passe?
Exactement. En tout cas, j'ai été très très impressionné. C'était, enfin, j'ai trouvé ça chouette. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que c'est pas à la base, d'après le titre, c'est pas forcément ma cam. Mais quand je regarde les sujets, tu vois, je me dis bah je m'en fous quoi. Enfin, c'est cool, mais je suis un homme, je considère que je sais, tu vois.
Et oui.
Et
bah non.
Et en fait,
et ben non. C'est pas tout.
Tu vois. Et en lisant ce truc là, et ce que j'ai trouvé génial, c'est la manière absolument. Il y a pas de condescendance, il y a rien du tout. Il y a pas de. Je me mets au dessus de vous, bande de merde. Je vais vous apprendre le truc.
Ah bah
tu
non,
te mets
même,
à un niveau qui est hyper
sans
humain.
Sans jugement.
Sans jugement.
C'est voilà. Ouais.
C'est hyper didactique. C'est hyper intéressant et j'ai lu tous les chapitres avec un grand plaisir. Vraiment, j'ai trouvé ma cam.
Merci,
c'est pour ça que je veux lire l'autre partie maintenant.
Peut-être donner son nom.
Alors,
le docteur Selinkos, non, je ne l'ai pas dit.
Non.
Ah, pardon, c'est pas autant pour moi.
Il y a beaucoup d'hommes qui ont lu les deux, hein, la sexualité masculine et féminine, qui ont tous commencé par la masculine et qui ont tous préféré la sexualité masculine.
Ah oui.
Ah oui.
Bon,
donc,
attends, parce que
on dira.
On verra.
Tu me diras.
Je te dirai.
Ouais,
je
voilà.
te ferai un retour. Je te dirai.
Je vais en remettre une couche. Je suis désolé, mais j'ai trouvé effectivement très très riche le nombre de sujets abordés est incroyable.
C'est quasiment exhaustif.
Ouais, je pensais, je connaissais tout.
Je pense.
Et en fait, comme même sur l'anatomie, j'ai appris des trucs. Alors que pourtant, voilà, je connais. oui.
Mais même moi, j'ai appris plein de trucs en l'écrivant.
Hein. Aujourd'hui, non. Voilà. Mais c'est incroyable, en fait. Et c'est pas chiant parce qu'il y a aussi des bouquins d'anatomie qui peuvent être très très ennuyeux. C'est pas du tout le cas, il y a pas une page où on s'ennuie quoi, et pourtant on pourrait imaginer que ce genre de choses aussi de livres aussi exhaustifs puisse être à la fin un peu rébarbatif.
Ouais.
Pas du tout le cas quoi.
Ouais, parce que les chapitres sont courts en fait, ils sont faciles à lire parce qu'ils sont courts, donc ça passe bien je pense. Puis on va épuiser ce qu'on y cherche, ce qu'on veut. Il y a plein de gens qui lisent des chapitres dans le désordre, enfin voilà, donc en fonction de leur centre d'intérêt du moment.
C'est ça. C'est exactement ce que moi, j'ai tout lu, mais je me suis dit, effectivement, ça, peut-être celui-là, j'y reviendrai le moment venu. Voilà.
Ouais, j'ai mis des marque-pages, d'ailleurs.
Oui.
Voilà. En tout cas, c'était fait pour ça. Voilà.
Et c'était, ben, c'était merci pour ça. C'est très bien fait.
Il y en a peu sur la sexualité masculine.
Ah oui, c'est un truc où il y en a pas beaucoup.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de bouquins qui sortent sur la sexualité féminine, mais sur la sexualité masculine, il y en a très peu. Et il n'y en avait aucun qui reprenait tout pour le grand public.
Ouais.
Il n'y en avait aucun, ça n'existait pas. Donc je trouvais que c'était quand même important de l'écrire.
Voilà. C'était important qu'on t'invite aussi, justement, parce que tu réponds à beaucoup de questions qui sont soulevées dans tous nos épisodes depuis maintenant.
Deux ans, non ? Je ne sais pas combien.
Ouais, ça fait
quand il sera diffusé, celui-là, ça fera presque deux ans.
Voilà, exactement. Et, ouais. c'est assez fou. Et justement, on parle bien et entre nous, ça fonctionne pas mal, justement, parce qu'on ose parler de tout.
Oui.
Mais est-ce que dans le couple, on peut parler de tout, selon toi, justement ? Est-ce que c'est quelque chose de...
On devrait pouvoir parler de tout en ce qui concerne, en tout cas, la sexualité. Ça ne veut pas dire forcément parler de tout en ce qui concerne son intimité, son jardin secret, voire même ses fantasmes, parce qu'il y a des fantasmes qui peuvent choquer l'autre ou être vécus même à l'extérieur du couple. Mais en tout cas, de ce qui concerne la sexualité du couple, en fait, on devrait pouvoir parler de tout.
Mais attends, tu fais une différence entre la sexualité et les fantasmes ? Puisque tu dis, on devrait pouvoir parler de tout niveau
la
sexualité.
La pratique, est-ce que les fantasmes,
ça ne fait pas partie de la sexualité
Les fantasmes font partie de la sexualité, mais pas forcément, ils ne sont pas forcément mis en pratique.
Oui, mais tu peux en discuter sans les mettre en pratique.
Je pense qu'il y a des fantasmes qui sont tellement personnels que les personnes sont même honteuses d'avoir ce genre de fantasme-là. Et c'est très difficile d'en parler dans un couple.
Tu peux pas en parler.
Ça peut être choquant, peut-être.
C'est très choquant. Il y a des fantasmes, par exemple, on sait qu'il y a 1% de personnes qui ont des fantasmes pédophiles. Je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose que l'on puisse discuter dans un couple.
J'allais pas du tout sur ce terrain-là.
Quand on parle de fantasmes, il y a toutes sortes de fantasmes. Ce n'est pas forcément ce qu'on pense tout de suite, le fantasme du plan A3 avec deux femmes, un mec, ou le fantasme de jeu sadomasochiste. Ça, effectivement, c'est des fantasmes assez classiques qui, aujourd'hui, je pense, ne posent plus de problème dans les couples. Et encore que, y a des gens à qui ça pose problème. Donc c'est en fonction aussi de ce que l'on ressent de son propre de sa propre culpabilité, voire sentiment de honte à l'égard de ses propres fantasmes. Et voilà, nous on en voit beaucoup dans le cabinet qui ont des fantasmes qu'ils n'ont jamais osé dire à personne.
Et ils le disent quand ils sont en consultation.
Et ils le disent en consultation.
Ils arrivent à le dire.
Oui, oui.
Parce qu'ils ont conscience que c'est un fantasme qui ne se dit pas et qui doit être, entre guillemets, réglé.
Effectivement, effectivement, c'est un fantasme qui est considéré comme déviant ou voire délictueux, dans le cadre de la pédophilie, par exemple. Il y a des gens qui ont des fantasmes pédophiles et qui ne vont jamais passer à l'acte. Je veux dire, il faut différencier...
Heureusement.
Oui.
Mais peut-être que de le dire, ça leur permet de ne pas passer à l'acte aussi.
Exactement. Et on sait très bien que le dire... ça évite un certain nombre de passages à l'acte. Donc il faut qu'ils aient un endroit où pouvoir dire tout ça en toute confiance, sans être jugés. Donc ceci dit, dans le couple, si ça nous intéresse, puisque c'est le sujet qui nous intéresse, il y a certainement des choses qu'on ne peut pas dire. Et puis il y a des choses aussi, notamment quand il y a un invité dans un couple, une relation extra-conjugale ou un couple secondaire, etc. Et que le couple principal n'est pas forcément ouvert à ça. C'est sûr qu'en parler, ça peut faire plus de mal que de bien, quoi. Voilà.
Donc là, en gros, tu dis que si on est infidèle, vaut mieux le garder pour soi plutôt que de le...
Je dis que dans certaines circonstances, vaut mieux le garder pour soi que le dire, oui.
Ça, on est très binaire, des fois, ici.
Non, après, c'est juste si tu veux garder ton couple. En vérité, si tu vois quelqu'un à côté et que tu sais que ça poserait problème, il vaut mieux peut-être se taire. Après, c'est pas une bonne chose dans tous les cas, mais...
C'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a certains couples qui sont totalement revigorés par la relation extra-conjugale de l'un des deux partenaires.
Parce que c'est le challenge ?
Non, parce que ça remet de la libido dans le couple. Ça remet de la libido chez la personne qui peut-être était en manque. Et ça remet de la libido dans le couple principal. Et donc, ça peut favoriser une meilleure sexualité dans le couple et pas du tout, que ce soit pas du tout quelque chose de négatif. En fait, ce qui se pose problème dans la relation extra-conjugale, c'est pas la relation extra-conjugale en tant que telle. C'est la culpabilité que peut avoir la personne de la vivre. Mmh. Et donc, ce sentiment de culpabilité qui va faire que, bah, il va changer quelque chose dans son comportement, mettre inconsciemment des indices à la portée de son partenaire pour être découvert. Et ensuite, bah, voilà, c'est un peu la catastrophe quand c'est découvert. En fait, c'est un cataclysme dans un couple quand il y a une infidélité qui est découverte. Mais il y a beaucoup de couples qui s'en relèvent aussi et qui au contraire, témoignent du fait que ça leur a permis de mieux se parler, plus se parler, remettre de l'intimité dans leur couple et qui ont revécu une deuxième jeunesse de leur couple après ça.
Donc après ça, réussir à mieux parler de tout alors et qu'avant, oui. Ils y arrivaient peut-être
exactement,
pas. Donc
ouais.
Parfois, ce genre d'événement...
Tout à fait, ça... complètement. Par exemple, on voit des couples qui arrivent où... des couples parfois de 10-15 ans, enfin je veux dire des couples qui durent, qui s'entendent bien, qui font plein de choses ensemble, qui ont des projets, enfin voilà, ou dans lequel l'un ou l'autre, malheureusement encore souvent la femme, n'avait jamais réussi à prendre de plaisir ou jamais réussi à avoir d'orgasme. Du plaisir, oui, bien sûr, hein, mais l'orgasme très peu, voire pas du tout, sans jamais oser le dire à son partenaire. Et puis, à l'occasion d'un événement qui peut être une infidélité, où en fait, on rebat les cartes, où on repart à zéro, à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent émerger d'une liberté de parole et la femme peut enfin se plaindre que son mec, d'accord, il est allé voir ailleurs, mais tu te rends compte que toi, tu ne m'as jamais donné de plaisir, donc remets-toi en cause aussi avec moi. Quoi. Voilà. Donc, ça peut libérer totalement la parole dans le couple.
C'est à la fois une mise à jour sur l'évolution des gens dans le couple et puis de dire des vérités qu'on n'ose pas dire forcément. Quoi.
C'est ça, dont on a peur de blesser, on a peur de faire du mal. Et comme celui qui trompe se met en position, entre guillemets, de coupable, moi j'ai aucun jugement là-dessus, mais lui-même se met en position de coupable, et ça permet à l'autre finalement de lui en balancer ce qu'il n'a jamais osé lui dire. Et finalement, ça permet de repartir à zéro sur de meilleures bases. Donc ça peut être ça c'est le cas le plus favorable des... voilà. Après, on sait tous qu'il y a beaucoup de cas où on n'arrive pas à passer au-delà parce que la blessure narcissique est tellement forte que c'est trop engageant quoi, en termes de blessure.
Comment on fait, d'après toi, quand on est en couple, pour réussir à garder un champ d'ouverture, de conversation le plus vaste possible? C'est-à-dire, comment on fait pour réussir à être capable de parler de tout dans son couple et à maintenir ça? Moi, j'ai la sensation que quand tu es en couple, tu fermes au fur et à mesure des trucs en disant, par exemple, les fantasmes. Tu peux dire, cette personne, je vais fermer la porte des fantasmes parce qu'ils ne sont pas avouables. Et comme ça, tu vas avancer. Et donc, plus le couple se fait, plus il y a des choses que tu gardes pour toi. Donc, ton jardin secret, il va s'agrandir. Mmh. Et comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir une zone d'échange qui soit le plus vaste possible et qu'il y ait des choses qui soient toujours dites? En fait, tu vois, je pense qu'il y a... Enfin, je ne sais pas si ma question est claire.
Bien sûr, parce qu'en plus, là, on parle du couple qui dure, du coup.
Oui. Hein.
Donc, ça veut dire qu'un couple qui dure, c'est un couple qui va durer des années et des années. Et c'est pendant ces années, les deux personnes, elles évoluent.
Oui.
Donc, on évolue tous. Nos désirs changent, nos corps changent, nos désirs changent, nos envies changent. Donc, c'est comment maintenir vivante la parole à l'intérieur même du couple. Ça, il y a des données, il y a des données de chacun. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même capacité à dire ce que l'on ressent, dire ce que notre intimité. Il y a des personnes qui sont incapables de parler d'eux-mêmes. Dès qu'on aborde la question de leur intimité, ils se referment, ils ne parlent pas. Alors on sait que, il y a beaucoup d'hommes quand même qui ont du mal à parler d'eux, à parler de ce qu'ils ressentent, à parler de leurs émotions. Dès que, par exemple, ils vont ressentir de la tristesse, tout de suite, ils vont se fermer, s'isoler, partir, aller boire des coups avec les potes. Enfin voilà, ils vont sortir du couple au lieu de faire du couple cet espace de sécurité dans lequel finalement ils se sentent assez en confiance et assez sécures pour dire, pour montrer leur vulnérabilité. Et je crois que en fait, ce à quoi il faudrait réfléchir, c'est comment faire de son couple le lieu de sa vulnérabilité, le lieu où on accepte sa vulnérabilité. Parce que quand on parle d'intimité, en réalité, on parle de vulnérabilité. Mmh. C'est-à-dire, vraiment, c'est je me montre à l'autre, sans phare, sans masque, en dehors du champ social, en dehors de l'être pour les autres. C'est vraiment l'être que je suis, moi, que je montre à l'autre. C'est très,
très
intime.
C'est pas possible, parce que si je fais ça, si je me montre à l'autre l'être intime que je suis, l'autre va partir. C'est ce qu'on se dit. On se dit, bah, il ne va pas supporter parce que cet être
ou ça va le faire chier.
Je l'ai moi-même. Oui, ou ça va le faire chier, mais on se dit ça. En tout cas, c'est ce qu'on se dit.
C'est quand même le grand pari de l'amour. Hein. Le grand pari de l'amour, c'est ça, quand même ça. C'est de parier que si je me montre à l'autre tel que je suis, eh ben, l'autre va continuer à m'aimer malgré mes imperfections.
Donc, quand on aime vraiment, c'est ça, c'est d'être capable de dire
sûr, ouais.
je t'aime au point de te montrer à quel point je suis vulnérable et toi, tu m'aimes au point d'accepter. Mmh. Que je sois vulnérable et que je ne sois pas le héros de ta
exactement.
Vie.
De, voilà. Et de te montrer aussi que je suis vulnérable.
C'est beau, c'est beau l'amour.
L'amour pur, tu connais pas. Hein.
Mais c'est beau l'amour, mais on n'y arrive pas souvent.
Mais pourquoi
c'est ça le problème.
Pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas sécure justement dans ce.
Parce qu'on a beaucoup de défense en fait. On est dans une société en plus où on est dans le je fais donc je suis. Donc c'est-à-dire que notre être passe par le faire au lieu de passer par l'être vraiment. Et donc on a tendance à faire tout le temps, à se montrer, à être dans l'image, à être dans l'apparence, à être dans la réussite, dans la performance, dans tout ça. Et donc, du coup, on s'éloigne de ce que fait notre intimité en tant qu'être. Mais c'est compliqué, du coup, dans son couple, de d'enlever toutes ces couches successives que l'on y a mis en place depuis tant de temps pour être soi-même, quoi. Donc c'est compliqué, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail sur soi d'abord, avant d'être le travail du couple. Et les deux doivent travailler dans la même direction pour qu'il y ait une rencontre possible dans le couple.
Toi-même, tu arrives à le raconter, à le décrire, à encourager les autres à suivre ce chemin-là. Est-ce que toi, tu arrives à l'appliquer? Parce que tu le vends bien.
Je me fais un devoir de l'appliquer et pas seulement dans mon couple. C'est-à-dire que dans ma vulnérabilité, qui est importante, je me fais un devoir de, aujourd'hui en tout cas, hein, parce que comme tout le monde, j'avais mis en place tout un tas de mécanismes de défense contre ça. Et aujourd'hui, avec l'âge, c'est vrai qu'on se sent un peu plus débarrassé de toutes nos obligations et de toutes... les injonctions de la société. Donc ça quand même rend un tout petit peu plus libre sur ce que l'on a envie d'être. Et en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je dans mon intimité, c'est-à-dire avec mes très proches, hein, c'est-à-dire mes filles, mon amoureux, mes amis très proches, voilà, je suis capable de montrer cette intimité-là de moi.
Quel est le secret pour ça, du coup?
Beaucoup de travail sur soi. Hein. Genre, 10 ans de psychanalyse, 3 fois par semaine. Ça fait du taf, quoi. Non, beaucoup de travail sur soi.
Donc le travail
beaucoup
sur soi,
d'acceptation de ce qu'on ressent, en fait.
C'est ce qui permet d'accepter cette vulnérabilité.
Exactement.
Ce qui permet d'accepter non seulement la vulnérabilité, mais aussi l'idée d'exposer cette vulnérabilité. C'est deux choses différentes, non?
De l'accepter et donc, du coup... De
moins avoir peur de ce que les gens vont penser aussi, l'attaque. C'est-à-dire que le bouclier ne sert plus à rien puisqu'on est conscient de ce qu'on est et puis on n'attend plus rien
Mais complètement. Moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai plus du tout peur de pleurer devant les autres, par exemple. Je n'ai pas peur que quelqu'un se moque de moi. Et puis en plus, les gens ne se moquent pas. Quand on pleure, les gens, spontanément, les gens sont gentils, en fait. Hein. Spontanément, mais les enfants aussi.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et quand je pleure devant mes filles, par exemple, elles sont pas là en train de se moquer de moi. Non, elles viennent me faire un câlin. Elles sont, mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Viens, je viens te faire un câlin. Voilà, c'est adorable. Les gens sont gentils de base et notre vulnérabilité, ça provoque aussi la gentillesse chez l'autre. La vulnérabilité, je pense vraiment que ça provoque la gentillesse chez l'autre.
Je suis complètement d'accord. Je trouve, j'ai pu le remarquer.
Ça la provoque.
J'ai pu le remarquer. Enfin, moi, je l'ai remarqué, c'est en voyant des gens sur scène.
Bien sûr.
Parce que des fois, il y a des spectacles, ça arrive aussi à des concerts, j'ai vu.
Où, l'artiste se met à pleurer, par exemple.
Alors, déjà, il y a ça, mais je l'ai vu à chaque fois, c'était des accidents. C'est-à-dire, quand il y a un bug, et que du coup, l'artiste est vulnérable, puisque l'artiste sur scène, il a quelque chose à faire, et quand il y a un bug dans ce qu'il doit faire, eh ben, on sent tout de suite la salle qui se met en empathie et qui aide spontanément l'artiste à reprendre le truc pour que ça continue.
Bien sûr.
Et enfin, c'est des choses que je...
Donc, ce qui est vrai en groupe, ce qui est vrai en groupe est encore plus vrai en relation duel. Mais même quand on se balade dans la rue et qu'on voit quelqu'un en difficulté, on a généralement envie de l'aider. En règle générale, on a envie d'aider les gens qui sont en position de faiblesse. Quoi.
Et tout dépend de la situation.
Oui, oui. Mais après, il peut se faire qu'on n'a pas le temps, il se faire qu'on est pressé, qu'on n'est pas bien là à ce moment-là. Enfin bref, il y a plein de raisons d'autres. Mais spontanément, on a envie.
En tout cas, c'est sûr que moi, j'avais fait l'expérience en radio quand je faisais mon émission. C'est vrai qu'il y a des moments où j'étais vraiment pas bien, etc. Quand je le racontais, il y avait vraiment un élan d'empathie aussi. Puis les gens qui n'étaient pas bien eux-mêmes, nous remerciaient de savoir qu'il y avait des gens qui n'étaient pas bien comme eux. Et du coup, ça leur permettait de le dire. Et tu sentais qu'il y avait quand même un truc qui se passait. Alors après, c'est virtuel et c'est à distance, donc c'est pareil. Mais il y a quelque chose qui se passe quand finalement, on est comme tout le monde.
Bien sûr.
En fait, on
est comme tout le monde. Et que quand on a une image... moi, je sais, par exemple, j'ai une image de femme forte, etc., etc. Et c'est vrai que dans mon métier, je renvoie ça. Et les patients peuvent être très surpris, par exemple, quand ils voient que ce qu'ils sont en train de me dire me touche. Évidemment que ça me touche. Sauf que j'ai appris, avec les années d'expérience, à gérer mes émotions. À gérer ce que je ressens, mais ça ne m'empêche pas de ressentir que ce qu'ils disent me touche.
Donc tu arrives à le contrôler quand tu es avec tes patients, et dans ton couple, c'est différent ?
Ah ben dans mon couple, je n'ai pas à contrôler. Si en plus j'étais dans le contrôle en permanence, j'exploserais. Oui, dans le couple, c'est différent, oui.
Mais je me demande quel est le pourcentage de couples aussi qui osent finalement cette sincérité et de se dévoiler finalement, parce que c'est un peu ça, de se dévoiler à 100%. J'ai l'impression que c'est quand même peu de gens. Même ceux qui s'entendent bien, les couples qui s'entendent bien, je sais pas, moi, dans mon entourage, j'ai pas l'impression quand mes potes, en tout cas, racontent pas tout de leurs envies, de leurs tristesses. Entre potes, un peu plus. J'ai l'impression que c'est un peu changé peut-être par rapport aux vieilles générations.
Ouais, peut-être. Ouais.
On a moins peur de pleurer dans les bras de son pote.
Ouais.
C'est-à-dire que les gens préfèrent pleurer dans les bras de leur pote que dans les bras de leur meuf.
Ouais. Souvent, il y a cette notion un peu débile, j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, mais de... Je reste un mec, donc il faut que je le sois, quoi.
Ouais.
Mais peut-être aussi que pour les hommes, ce qui est un peu plus compliqué que pour les femmes, c'est que l'idée de pleurer dans les bras de sa nana, ça renvoie à l'image maternelle. Et que donc, du coup, on a, pour les hommes, je pense que c'est un peu plus compliqué de se dire « je vais accepter de me mettre en position finalement d'enfant vulnérable ou de laisser l'enfant en moi s'exprimer vis-à-vis de cette femme qui n'est pas ma mère et que je ne veux surtout pas voir en tant que mère déjà, si en tout cas je veux conserver une sexualité épanouie avec elle. je pense que c'est pour vous un peu plus compliqué que pour nous les femmes, où on a moins ce côté je pleure, tu me fais un câlin, je vais pas voir en toi mon père ni ma mère, quoi. En tout cas pas mon père, et même si je vois ma mère, c'est pas très grave, quoi.
Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé ça comme ça. Donc, du coup, maintenant, je ne les insulterai plus.
Comment on peut faire quand on est dans un couple où on n'arrive pas à parler de tout ? Comment on peut faire pour amorcer cette spirale positive et aborder des sujets desquels on n'aurait pas l'habitude de parler parce qu'on a peur justement de montrer sa vulnérabilité ou des choses comme ça. Comment on peut faire pour ouvrir la porte ? Qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement ?
En pratique, je pense que ça peut passer par des jeux. Alors aujourd'hui, il y a plein de jeux qui existent pour encourager le dialogue dans le couple. Il y a plein de jeux qui existent. Ça peut passer par ça et ça peut passer aussi par l'écrit. Moi, je conseille beaucoup à mes patients par l'écrit. L apostrophe écrit.
Tu rends tout gueule. Il fallait bien m'entendre.
Peut-être c'est avec qui ça fonctionne, mais je pense pas.
C'est parfois beaucoup plus facile de dire les choses par écrit parce qu'on a le temps de se poser, on a le temps de le dire comme on a envie de le dire, on a le temps de savoir si ce qu'on dit va blesser l'autre, pas le blesser, etc. Et en tout cas, l'autre, quand il le lit, il a aussi le temps de gérer ses émotions. Enfin, c'est moins pris dans le côté émotionnel qui peut être compliqué dans un couple. Quand il y a de l'attachement, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le couple, pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'il y a de l'attachement. Il n'y a pas que de l'amour dans le couple. S'il n'y avait que de l'amour, ça ne poserait pas problème. C'est l'attachement qui pose problème dans le couple, parce qu'il n'y a pas d'attachement sans ambivalence. Donc, quand on est dans un attachement, plus on est dans un attachement fort, plus il va y avoir de l'ambivalence. L'ambivalence, ça veut dire qu'on éprouve pour une même personne le tout et son contraire, c'est-à-dire le bon et le mauvais. Et quand on est dans un couple où il y a un attachement très fort, on va être autant amoureux qu'on va détester. Et ça, ça peut être successif ou ça peut être même en même temps. Donc si on n'a pas un minimum de recul ou même de prise de conscience que ce que l'on ressent en réalité c'est dû à l'attachement et que c'est dû donc aux modalités d'attachement et que c'est pas lié à la personne que l'on a en face, c'est très compliqué à gérer. En plus, il faut savoir que quand on fait couple, donc quand il y a cet attachement-là, on n'est pas deux dans un couple, on est six. C'est-à-dire qu'on vient avec son histoire. On vient avec les modalités d'attachement qu'on a mis en place dans l'enfance, avec son père, avec sa mère. Donc vous avez deux d'un côté, plus un, trois, et trois de l'autre. Ça fait au minimum six. Et encore ça, on exclut l'attachement entre les frères et les sœurs, qui aussi vont avoir une importance et un impact dans les relations d'attachement que l'on met en place dans notre vie. Et pas que dans le couple. Hein. Ça, on parle de toutes les relations d'attachement, que ce soit dans le couple, avec ses enfants, avec ses amis, etc. Mais le couple a de ça de particulier, c'est que c'est une relation d'attachement très forte, en général. Et plus c'est fort, plus ça va donner des émotions contradictoires. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les violences sont le plus importantes dans le couple et dans les relations d'attachement très fortes. Il y a très peu, comparativement, de violences vis-à-vis des inconnus. La plupart des violences sont dans la famille. Parce que c'est vraiment, plus on aime, plus à la fois on a des émotions très fortes, donc de la colère très forte, etc. etc.
Il ne peut pas y avoir un attachement qui soit que positif, avec que des émotions positives.
Ah non, non, non.
Donc ça, forcément, ça, si je suis attaché à toi, je t'aime aussi
si
fort que je te déteste.
Si tu es un être humain, oui. Tu as forcément une part sombre en toi.
Tu peux répondre, d'ailleurs. Je ne dirai rien. Et tu es un être humain, Pascal.
Enfin, moi, j'ai une vague idée, mais je ne le dirai pas.
Tout être humain, tout être humain a une part sombre en lui-même. On passe notre temps à cacher notre part sombre, mais elle est là. Donc, elle est là et on l'a tous. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre en action cette part sombre.
Hein. Bien sûr.
Mais elle est là, bien sûr. Et le couple, c'est vraiment le lieu où ça va s'exprimer le plus. Donc, on a tous un travail à faire dans ce couple. Hein. Et en même temps, moi, je trouve que c'est ça qui est formidable, le couple. Je trouve que le couple est formidable pour ça, parce que le couple nous oblige à nous élever, à travailler sur nous. C'est quelque chose qui nous oblige vis-à-vis de l'autre.
Mais si tu l'exprimes, cette part sombre, elle est plus sombre après ?
Ah bah, elle est toujours sombre, hein. Tu sais, quand t'as envie de tuer quelqu'un, c'est sombre. Hein. Même si tu l'exprimes, t'as toujours envie de tuer quelqu'un.
Hein. Mais non, moi, quand j'ai envie de tuer quelqu'un, je l'exprime, puis après, je me dis, ça se fait pas.
Et
j'ai plus, cette envie disparaît.
Oui, et après, elle revient.
Elle sera toujours là.
Elle casse les couilles, oui, mais
Elle
arrête son comportement
donc,
bizarre.
Donc, ta part sombre, elle est en toi. C'est pas l'autre qui mérite d'être tué, hein.
Ah non, clairement.
Mais c'est toi qui as envie de tuer.
On va effacer ses propos après.
Oui, le problème est facile à tracer. Hein.
C'était le dernier épisode, merci.
On était ravis de finir.
D'accord, mais du coup, quel effet ça a ? Donc la part sombre, tu l'exposes, elle reste sombre, mais quoi ? Elle est gérée différemment ? Quels sont les effets d'exposer cette part sombre donc, à son partenaire, par exemple ?
Ah, parce que c'est je ne dis pas que tu es obligé d'exprimer ta part sombre à ton partenaire. Hein. J'étais pas obligé d'exprimer à ton partenaire. Mais si tu n'en prends pas conscience, tu vas lui faire payer ta part sombre. Ça, c'est sûr.
Ah, donc il faut avoir conscience de sa part sombre et de
pour
l'effet
ne pas
que l'attribuer ça a sur la relation. D'accord, ok.
Parce qu'en fait, si tu n'identifies pas ta part sombre, en fait, tu la projettes sur l'autre. C'est-à-dire, la
donc
projection...
Donc ça devient la part sombre de l'autre ?
La projection, c'est un mécanisme de défense psychologique qui consiste à attribuer à autrui ce que je ne veux pas porter chez moi. Donc, en fait, tu attribues à l'autre une émotion ou un sentiment qui est en toi et que tu ne veux pas voir en toi pour conserver une bonne image de toi-même. Donc, c'est ça, la projection. Et ça, c'est un mécanisme de défense psychologique qu'on voit très fréquemment avec l'évitement. Hein. L'évitement, c'est le fait d'éviter ses émotions, donc négatives en général, hein, parce que si c'était que la joie, on ne l'éviterait pas. Donc, l'évitement, c'est un autre mécanisme de défense très, très fréquent aussi.
Je comprends mieux pourquoi je suis un psychopathe. Alors,
je suis bluffé.
Ah, wow.
Je croyais qu'il y avait que moi.
Là, je viens de me prendre une tarte dans la tronche.
Il y avait des grands silences.
Je bois les paroles. Donc là, très intéressant, super intéressant.
Ouais. Mais est-ce que ça vous parle ?
Ah, bien sûr, ça me parle énormément. Mais même en amitié, je pense que ça se
reporte là-dessus.
Oui,
parce que l'amitié est une forme d'amour. Donc c'est une forme d'amour qui peut être aussi puissante que l'amour amoureux. Hein. Et puis, de toute façon, dans un couple, on devient aussi ami avec son partenaire. Sinon, je ne pense pas que ça dure très très longtemps. Donc l'amitié, oui, c'est une forme d'amour qui est aussi forte, avec un attachement qui est aussi forte, qui est aussi fort que l'état amoureux. Et puis, on vit tous aussi des ruptures amicales. Puis on a tous vécu ça, qui sont très douloureuses, vraiment, qui peuvent faire aussi mal parfois que des ruptures amoureuses.
Et qui viennent de sujets de merde,
oui.
comme d'habitude.
Parce, voilà.
Parce qu'on n'a pas été transparent et qu'on n'a pas tout dit.
C'est ça.
Pardon, j'ai pas entendu ta question.
Je disais exactement l'inverse de Pierre. Je disais parce qu'avec les amis, parfois, on ose tout dire.
Ah, d'accord.
Ça dépend des amis, je pense. Oui, il y a des amis à qui tu oses tout dire et des amis où tu dis pas tout. Après,
ça dépend de soi, je pense aussi. Et ça dépend de la modalité relationnelle que tu as mis en place avec ton ami. Vraiment, ça dépend en fait de ton histoire à toi et de la modalité relationnelle que tu mets en place avec l'autre, de sa modalité relationnelle à l'autre aussi. On sait par exemple qu'il y a des gens qui vont être plus dans des relations fusionnelles où ils vont avoir un ou deux amis très très forts, très très proches, où il faut que tout le temps qu'ils soient là, qu'ils sont beaucoup dans la demande affective avec leurs amis, etc. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, ils vont avoir 10 potes, 10 amis avec qui ils vont avoir des relations vraiment beaucoup plus espacées, etc., avec beaucoup moins de demandes. Donc, tout ça, c'est infini. Les possibilités en termes de relations humaines sont infinies.
Comment on peut offrir un terreau favorable dans son couple à ce que l'autre puisse justement tout dire, quoi, être à l'aise pour tout dire ? Comment est-ce qu'on peut aider l'autre à se sentir en confiance dans un endroit où...
Être à l'écoute. C'est-à-dire avoir des moments d'intimité et d'écoute où il n'y ait pas, pour une fois, entre nous, ni le téléphone, ni la musique, ni la télé, rien, quoi. Aucun média qui s'interpose entre soi et l'autre. Vraiment être à l'écoute de l'autre et s'offrir ça dans un couple de façon régulière. Les thérapeutes de couple, par exemple, ils recommandent au minimum une fois par semaine de se retrouver à deux sans rien faire. Enfin, je veux dire, juste être à deux. Dîner, aller au resto, mais pas regarder la télé. Regarder la télé ou regarder un film, c'est pas un moment d'intimité de couple. Hein.
Un moment vraiment où l'activité, c'est d'être avec l'autre. Pas d'être avec l'autre pour faire quelque chose, mais de parler.
Oui, bien sûr.
Si tu es tout seul avec une personne, tu parles normalement.
Et plus aussi affinité. Quoi.
Ouais. Et plus si affinité.
Ah oui, parce que ça fait partie des préliminaires aussi, surtout pour les femmes. Genre ce moment d'intimité où l'on parle, pour la femme, c'est quelque chose qui est très important, qui est beaucoup moins important pour l'homme, mais pour les femmes, c'est très important.
Ça compte donc.
Hein,
ça compte donc.
Mais moi, je suis relou, je parle trop. Pour moi.
Ce moment d'intimité où on écoute l'autre, où on se sent. Parce qu'en fait, ça favorise l'intimité. Et l'intimité, elle n'est pas que sexuelle. L'intimité, elle est déjà émotionnelle avant d'être sexuelle, en réalité. Et c'est là où les hommes ont du mal à comprendre que leurs demandes sexuelles, bien souvent, on voit beaucoup d'hommes qui viennent nous voir pour des demandes sexuelles un peu trop importantes à leur goût, hein, de plus en plus, parce que ça les gêne et ils sont frustrés, du coup, ou au goût de leur partenaire. Et en fait, ce sont souvent des hommes qui ont du mal à exprimer leurs émotions, qui ont du mal à ressentir leurs émotions, qui ont du mal avec leur propre intimité, qui ont du mal avec leurs affects. Et donc, leur demande sexuelle est en réalité une demande affective déguisée. C'est uniquement ça.
Non, okay. Je suis complètement d'accord, moi.
Ah, merci.
Non, mais j'apprends des choses. Je vais en partir, bon, en pleurant, mais je suis content quand même.
Bah, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions?
Non, c'était parfait.
Non, encore, j'en aurai encore un milliard, mais
ouais. Oui, ça ne s'arrêterait jamais, c'est sûr.
On fera d'autres épisodes. Ouais.
On va créer un autre podcast.
Parce que,
pour
beaucoup, ça. Non, j'ai plein de choses à dire. Je suis intarissable sur le sujet.
Mais génial. C'est vraiment merci beaucoup d'être venu nous éclairer, parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'était extra.
Et merci Pascal de m'avoir dit oui, parce que quand ton attaché de presse nous a contactés, j'ai dit bah non, en fait, une femme dans au cœur des hommes, ça n'a aucun sens. Et j'avais raison, ça n'avait aucun sens. Et j'ai passé un très très bon moment, donc merci beaucoup.
Ouais, non, il faut. Il faut
faire des choses qui n'ont aucun sens.
Voilà, oui, c'est ça. Une belle morale.
Oui, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Dezania qui disait ça. Si la vie avait un sens, je prendrais l'autre.
Voilà, c'est ça.
Magnifique.
Je trouve que c'est...
On est d'accord.
Voilà. C'est ce qu'on a fait.
Ouais. Bon, après, ça marche ou pas. Hein.
Ça a un prix. Mais en tout cas, on passe des bons moments. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Ça nous fait très plaisir que vous nous écoutiez. Donc, merci de le faire. Merci de continuer. Merci de parler de ce podcast autour de vous. Merci de le partager. Merci de nous accepter tels que nous sommes. Hein. C'est des choses qu'on entend. Bah, on est comme on est et vous nous acceptez. Ça nous fait très plaisir. Et on continue. Donc, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode, un nouvel invité. Et on compte sur vous pour le partager. Et puis, passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, à dans 15 jours, quoi. J'ai beaucoup bégayé, là.
T'es perturbé.
C'est l'émotion. C'est l'émotion, Céline. Tu
voilà. C'est ta vulnérabilité.
Voilà, je suis vulnérable. Allez, ciao tout le monde. Ciao.
Ciao.
Au revoir.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.